Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. En tant que médias indépendants, nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez suivre nos actualités sur notre site, vous abonner à notre chaîne YouTube, notre compte Instagram, Facebook et suivre nos podcasts sur Acast et les plateformes d'écoute. Bonjour Gilles Verviche.
Bonjour.
Vous m'avez donné rendez-vous au beau milieu d'une rue. Vous m'expliquez pourquoi cette adresse est particulière pour vous ?
Premier livre que je cherchais à publier, j'avais envoyé des manuscrits, j'avais reçu un mail de refus de cette maison d'édition. Mais dans le mail de refus, il dit « Ah, ça va pas être possible pour une collaboration ». Et il finit le mail, l'éditeur, en disant « N'hésitez pas à venir nous voir rue de Lancry ». Un mercredi, j'ai pris mon petit bus en me demandant qu'est-ce que je faisais là. J'ai monté les escaliers, je me suis retrouvé dans un bureau avec 4, 5, 6 stagiaires. En me demandant encore ce que je faisais là, si on n'allait pas me jeter. Voilà, je me suis un peu oublié, quoi. Et puis, je suis rentré, j'ai dit bonjour. Bah, je m'appelle Gilles Verviche, on s'était eu... Ah oui, très bien, bah, asseyez-vous, prenez un café. Et je suis ressorti avec un contrat. C'est un moment de basculement, parce que jusque-là, j'étais donc professeur enseignant de philosophie. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à publier. Et finalement, je le dois peut-être à 20 secondes de courage, en n'ayant pas trop peur de... la honte de l'image qu'on aura. Je me dis, après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Pas grand-chose. C'est un lieu important.
Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur les lieux du crime ?
Oh, ça me fait pas grand-chose. J'étais revenu de fait régulièrement, puisque je suis resté 3-4 ans dans cette maison d'édition. Voilà. Disons que je revis pas ce jour-là, parce que je suis revenu là dans d'autres circonstances. Hein. Là, on pourrait parler de Bergson... qui nous parle de la mémoire, etc. Comment finalement notre vision des lieux qui nous entourent change au fur et à mesure. Hein. Vous savez, quand vous allez visiter un pays, vous, la première fois, ça ne fait pas la même sensation ou impression qu'au bout d'un mois. Quoi. Et parce que finalement, je change avec ce qui m'entoure et finalement, je ne le perçois plus de la même manière. Voilà. Et j'ai changé avec le lieu, je m'y suis habitué, donc... J'y suis pas venu qu'une fois dans ma vie, donc il n'y a pas le côté pèlerinage. Voilà. Et puis bon, depuis j'ai fait d'autres choses, d'autres maisons d'édition, mais voilà.
Effectivement, et depuis vos premiers pas en tant qu'auteur, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous êtes aussi, vous l'avez dit, professeur agrégé de philosophie. Et je vous ai proposé aujourd'hui de déshabiller un peu la notion de changement. Sauf que justement, il fait bien froid sur ce trottoir. Est-ce qu'on va se réfugier à l'intérieur pour continuer cet entretien ?
Eh bien, si vous voulez, volontiers.
Vous me suivez alors.
Voilà.
Tout de suite, un nouveau rendez-vous, un instant philosophie avec notre invité Gilles Verviche. Entre autres choses, je lui ai proposé de réfléchir à une assertion que vous avez déjà forcément entendue. Deux points, ouvrez les guillemets. J'ai réussi à donner le change. Alors nous voici bien installés, bien mieux installés, merci d'ailleurs au Syndicat National des Journalistes de nous avoir prêté cette petite salle. Sans transition, Gilles Verviche, ça veut dire quoi pour vous changer, tout simplement ?
C'est très difficile, parce que déjà philosophiquement, si on dit « tu changes », ça veut dire que je suis à la fois le même et l'autre. La notion de changement me pose un problème... philosophique de base, quoi. Hein, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste pas.
C'est la question de l'identité, en fait.
Voilà, exactement. C'est la question de l'identité. C'est vrai qu'on a l'impression que le changement, c'est forcément bien aussi. Il y a l'idée, c'est un peu ce qu'on appelle la mode, quoi. Hein. J'avais lu chez je sais plus quel philosophe la distinction entre mode et modernité. Donc la modernité, c'est forcément quelque chose de contemporain, d'actuel. Et c'est à quelle manière le présent rend hommage au passé. Parce qu'il n'y aurait pas de modernité s'il n'y avait pas toute une histoire. Par exemple, dans la domaine des sciences et des techniques, voire de la culture, toute une histoire qui avait amené à cette modernité. Hein, comme disait je ne sais plus qui, nous sommes des nains sur des épaules de géants. Donc voilà, la modernité, c'est le présent qui remercie le passé pour tous les progrès qu'il lui a permis d'accomplir. C'est l'idée, je ne serais pas là sans vous. Alors que la mode, c'est l'idée que le nouveau est forcément mieux que l'ancien. Voilà. Et là, au contraire, c'est jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. C'est l'idée que... Si t'es vieux, enfin, il n'y a pas de transmission entre les générations. Voilà, le nouveau est forcément mieux, pas parce qu'il est mieux, mais parce que c'est nouveau. Donc le changement, changement est pas forcément bien. C'est pas parce que ça change que c'est bien. Chirac qui disait ça en citant Jean Guiton. Hein. Être dans le vent, c'est avoir un destin de feuille morte. Voilà. Il y a un prix Nobel de littérature que vous connaissez peut-être, hein, qui disait Bob Dylan. Rien n'est plus durable que le changement. Donc il y a les pubs pour les voitures qui l'utilise. Donc durable que le changement. Effectivement, le changement, c'est aussi... Au départ, c'est purement philosophique. C'est-à-dire, on est dans le paradoxe. Hein. C'est-à-dire, quand on dit rien n'est plus durable que le changement, ça paraît évidemment contradictoire. Hein. Si je dis à ma femme, je te quitte, c'est pour que notre couple dure plus longtemps, rien n'est plus durable que le changement, elle va un peu s'étonner. Voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend un artiste, je pense qu'il faut qu'il se renouvelle pour pouvoir... durée.
Alors, il y a ces petites phrases qu'on connaît tous et toutes. Dans le premier épisode de cet instant philo, on avait parlé de l'expression « les gens ne changent pas » avec Marie Robert. Aujourd'hui, je vous propose la phrase suivante. « J'ai réussi ou je n'ai pas réussi à donner le change ». Alors, donner le change, pour moi, c'est lancer sur une fausse piste, c'est tromper quelqu'un éventuellement en lui donnant une fausse impression, c'est bluffer en fait. C'est un peu comme au poker, donner le change. Ça vous est déjà arrivé d'avoir à donner le change ?
J'ai du mal avec l'idée d'être en représentation, en fait. Parce que quand on est en représentation devant les gens, hein, c'est ce que Pascal appelle un peu l'hypocrisie, on est en représentation parce qu'on attend des gens qui nous disent des choses bien, qui flattent notre ego, etc. Et en fait, quand on est en représentation, y a un décalage avec celui qu'on croit être, je sais pas si on l'est vraiment, mais qu'on croit être, et puis l'image qu'on voudrait donner, qui est pas, voilà. Et donc, au bout d'un moment, le décalage entre les deux fait qu'on se sent mal parce qu'on se dit, ah, mais mon image, à un moment, s'ils arrivent à la voir, elle va peut-être, voilà. Alors, on est toujours plus ou moins en représentation, notamment quand on est prof. Mais, voilà. Moi, en fait, au fur et à mesure du temps qui passe, j'ai plutôt pris l'habitude qu'il y ait le moins d'écart entre ce que je suis ou ce que je crois être, en tout cas. Ce que Bergson appelle le moi profond, j'ai parlé de Bergson tout à l'heure, ce sera le fil rouge, mais le moi profond et le moi social, voilà, c'est un peu ça, entre le moi profond et le moi social, voilà. Alors je sais pas si je me connais très bien, d'ailleurs je me connais assez mal, voilà, j'essaye plutôt que les deux correspondent le mieux, parce que sinon il y a une sorte d'implosion, de malaise, voilà, donc je suis pas trop... Voilà, si c'est ça, donner le change...
Moi, ça me fait penser justement aux réseaux sociaux, en fait, où on cherche parfois à séduire, à épater, à impressionner, en tout cas. Je pense que là, on donne le change. C'est même parfois irrésistible, en fait, avec les réseaux sociaux, à quelque chose de cet ordre-là, je pense. Vous pensez peut-être à d'autres moments dans la vie où il est impossible de faire autrement, de ne pas donner le change ?
Ces réseaux sociaux, c'est intéressant, effectivement. Hein. Il y a une sorte d'effet miroir où tout le monde se trompent les uns les autres. C'est des modèles de réussite, de beauté qui sont faux, des normes qui sont fausses, et en même temps ça nous rend triste parce que c'est un idéal qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est-à-dire que les personnes qui incarnent cet idéal elles-mêmes n'y correspondent pas, donc il y a un genre de jeu de dupes pour le coup. Hein. L'illusion fonctionne assez bien en fait. Hein. Ces relations sociales, de réseau social virtuel... font que on est perpétuellement en train de, comme vous dites... donner le change. J'imagine qu'il y a plein de gens dans les métiers qu'ils font, divers et variés, qui peuvent pas être soi-même. Enfin voilà, j'imagine que si on pense à plein de gens qui ont des travails sous la pression économique, qui ont juste peur de le perdre, on imagine qu'ils vont faire bien gentiment ce qu'on leur demande, se laisser marcher dessus, parce que on leur dit gentiment, de toute façon, si t'es pas content, il y a la queue pour prendre ton poste, quoi. Et donc, voilà, moi j'imagine que dans la vie professionnelle, on doit passer des journées avec quelqu'un qui est pas nous, quoi, pour pouvoir garder son poste, quoi, avec cette pression. Ben alors là, avec ce qui s'est passé en 2020, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Voilà. Donc.
C'est là où on se rend compte qu'on n'est pas irremplaçable, oui. Voilà.
D'où l'intérêt, je pense, de Est-ce que c'est possible? Voilà, moi j'ai la chance de le faire, mais trouver un travail qui nous correspond, plutôt qui correspond aux normes sociales. J'avais un élève qui marchait bien en philo, qui était venu voir 2-3 ans après la terminale, il avait commencé les études de philo, et puis il m'a dit j'ai tout arrêté. Là je fais un CAP de charpentier, parce que c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc il avait vraiment les capacités pour faire un travail intellectuel, et puis en fait il s'est rendu compte que ce qui lui plaisait c'était plutôt de travailler le bois. Alors ça fait cliché, mais moi j'ai été marqué par ce... Voilà. Il s'est rendu compte que c'est ça vraiment qui le rendait heureux. Voilà. Donc alors peut-être qu'on pourrait trouver notre réussite ailleurs que dans les images sociales qu'on essaye de nous imposer. Par exemple la création d'entreprise, etc. Peut-être que c'est pas ça forcément... Voilà. Parce que c'est peut-être pas réussir sa vie que de devenir quelqu'un qui ne nous ressemble pas.
C'est une parfaite transition. On peut s'arrêter un instant sur l'autre notion présente dans cette phrase « réussir ». Réussir à donner le change. Il y a peut-être autant à dire ici. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, j'en pense pas mal de choses. J'ai même écrit un livre là-dessus. Hein, c'est vous dire, peut-on réussir sans effort ni aucun talent ? Donc effectivement, la réussite... Alors, si on peut faire vaguement une petite allusion à une phrase politique qui m'avait un peu... étonné, voire choqué, c'était le président de la République en inaugurant un campus de start-up, je sais plus comment ça s'appelle, et il avait dit on est dans une ancienne gare, la Alfraissinet, qui est une ancienne gare, et une gare, c'est un lieu où se croisent les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Alors, bon, c'est fou quoi, enfin, voilà, les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien, donc ça veut dire que déjà c'est un peu, comme je le dis, comme une pub de lessive, hein. c'est blanc ou c'est noir, c'est propre ou c'est pas propre. Moi, comme je rappelle, quand je mets mes chaussettes, c'est pas propre ou sale, hein. Il y a un truc entre les deux, hein. Je sais pas, enfin, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais c'est pas tout à fait, voilà. il y a des degrés, voilà. Bon, bref. On comprend que quand il dit des gens qui ne sont rien, des gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien, on comprend tous les présupposés qu'il y a derrière. C'est plutôt qui ont quelque chose ou pas, qui n'ont rien, voilà. Sous-entendu un peu de l'argent, et puis quelle réussite, ben, on le voit, la réussite plutôt, d'entreprise, voilà. Alors, c'est très bien, hein, des gens qui réussissent, dont le but c'est de gagner de l'argent, créer une entreprise, très bien, mais moi ce qui me dérange c'est que ça devienne le modèle de toute réussite. Donc moi ma grande phrase de référence c'est il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui dépendent pas de nous. Alors déjà ça permet de se détendre un peu, c'est-à-dire que si on n'atteint pas ses objectifs, on peut se dire que de toute façon il y a des choses qui dépendent pas de nous. Par exemple moi quand j'écris un livre, il y a des choses qui dépendent de moi, c'est de faire un bon livre. C'est-à-dire de mettre toutes mes forces dans la bataille, et puis tout le reste ne dépend plus de moi. Comment il va être reçu, comment il va être édité, publié, voilà. Si on n'atteint pas le but qu'on s'était fixé, il faut se rendre compte que le but qu'on se fixait ne dépendait pas que de soi. Et donc, c'est quand même, plutôt que de raconter aux gens, comme disait Steve Jobs, la différence entre l'entrepreneur qui réussit et celui qui échoue, c'est la persévérance. Moi, c'est vraiment ce contre quoi je me bats. Je veux dire, on peut persévérer tant qu'on veut, mais si on essaye de persévérer sur les points qui dépendent pas de soi, de toute façon, on n'y arrivera pas. Voilà. Et puis cette notion de réussite, je trouve que c'est un modèle quand même, effectivement, entrepreneurial. Je sais pas si on parle de, bah, je sais pas, des soignants, par exemple, que ça veut dire la notion de réussite. Si on parle d'une relation amoureuse, on n'est pas dans le domaine de réussite où on coche des cases, enfin, la vie n'est pas une compétition.
Ah, mais on est dans la start-up nation.
Voilà, on est exactement dans la start-up nation où le start-up, l'entrepreneuriat devient le modèle de tout. Alors, Macron, dans une interview plus tard, avait dit, et puis quand je parle de réussite, c'est pas que dans le travail, ça peut être dans la vie privée, familiale, mais ça veut rien dire la réussite dans la vie familiale. Enfin, voilà, moi, par exemple, j'ai deux filles, si je parle un peu de ma vie, ça, enfin, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire réussir mes filles? Je sais pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Moi, j'essaye juste qu'elles soient bien dans leur peau, voilà.
Ça vous énerve, en tout cas.
Bah ouais, la notion de réussite, le concept même de réussite, en fait, me plaît pas beaucoup.
On sent un vrai esprit subversif, hein, un ton irrévérencieux, je sais pas. C'est important pour vous, on va dire, le pas de côté, l'humour dans votre pop philosophie?
Alors oui, c'est important. Bah déjà, de toute façon, je peux pas vraiment faire autrement. Hein. Même quand je fais mes cours, sur 2 heures de cours, je fais un quart d'heure de sketch. Bon, d'abord, l'humour a toujours son intérêt pour maintenir l'attention d'un auditoire ou d'un lecteur. Donc, de toute façon, Cicéron l'écrit, et c'est un des rares qui écrit un peu sur le rire, voilà. Et puis moi, de toute façon, la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est le paradoxe, hein, ce qui va contre le sens commun, c'est ce qui étonne, voilà. Et moi, à chaque fois que je commence à tordre un moment... un paradoxe philosophique, ça commence tout de suite à m'évoquer des situations un peu marrantes, quoi. Et je trouve que montrer le paradoxe à quelqu'un, l'humour est quand même le meilleur moyen de le faire. Et effectivement, quand vous parliez de pop philosophie et ou de pop culture, faut pas confondre deux sens de sérieux. J'en avais parlé, ça. J'avais fait un livre sur le rire, justement.
Comme Bergson.
Oui, alors.
On avait dit que c'était le fil rouge.
Voilà, voilà. Pas comme Bergson. J'ai pas fait un livre comme Bergson. Moi, j'avais fait un petit truc, effectivement. Peut-on rire de tout? Enfin, voilà, question de base. Et j'avais lu, du coup, effectivement, le rire de Bergson, qui parle pas souvent du rire, d'ailleurs. Il est pas très marrant comme mec. Parce que, il conclut quand même pour dire que dans une société idéale, il y aurait plus de rire. Hein.
Donc la pop philosophie, elle, à l'inverse, c'est une philosophie plutôt marrante.
Pour parler de choses sérieuses, hein, la mort, le sens de la vie, on n'est pas obligé d'être sérieux. Il va dire ça, Platon, voire Aristote, hein, que quelqu'un d'intelligent doit pas rire, quoi. Alors pour Platon, c'est parce que ça montre qu'on se maîtrise pas, on n'est pas sage, nanana. Franchement, pour moi, l'humour est la forme achevée de l'intelligence. Voilà, c'est comme ça que je le dirais, parce qu'on est dans une fulgurance. Pour moi, il y a deux critères d'intelligence. C'est les gens qui ne doutent de rien et ceux qui n'ont pas d'humour.
Et donc, la pop philosophie, c'est de l'humour et du doute.
Voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de cultiver, mais même ça, j'en suis pas sûr.
Alors, sur la couverture de ce livre dont vous parliez, « Peut-on réussir sans effort ni aucun talent » aux éditions Le Passeur, on voit cette image bien connue d'Albert Einstein qui tire la langue, photo à laquelle a été ajouté un style Warhol, on va dire, tout en couleur. Et ça me fait penser à cette phrase d'Einstein, « Il est plus difficile de désagréger un préjugé qu'un atome ». Alors, je vous le demande, quel est le préjugé que vous avez eu envie de déconstruire justement avec ce livre? Vous en avez parlé un peu.
Le préjugé, c'est ce quand on veut, on peut. Alors, c'est sûr que si on veut pas, on peut pas. Si je reste allongé sur le canapé à rien faire, il va rien se passer, il va rien m'arriver. Mais cette idée que si on veut, on peut, donc si tu n'es pas parvenu à ton but, si tu as raté ou si tu es un raté en plus, selon encore une fois un critère qui est plutôt marchand, économique, alors c'est de ta faute, voilà. Et donc c'est ce préjugé-là qui est en fait un moyen pour des gens qui en général ont des situations plutôt privilégiées dans la société de légitimer leur position en se disant si je suis là, c'est que je l'ai mérité. Alors, j'ai regardé Miss France, tiens. Et en gros, c'est toujours il faut croire en ses rêves, persévérer, c'est toujours ça, faut croire en ses rêves, persévérer. Alors, à un moment, la persévérance, si on s'acharne sur quelque chose qui, en fait, ne correspond pas, ça s'appelle de l'obstination. Plutôt que quand on veut, on peut, c'est-à-dire, si t'es pas réussi à devenir ce que tu voulais, c'est que t'as pas assez persévéré, tu l'as pas assez voulu. On culpabilise les gens qui sont dans des situations défavorisées. Ça fait une morale qui est pas du tout solidaire. Enfin, voilà. D'ailleurs, en général, ceux qui soutiennent cette morale du quand on veut, on peut, parlent pas de solidarité, mais d'assistanat.
C'est le mythe contemporain du mérite, en fait. Hein. Voilà, vous parlez de ça.
J'appelle ça une illusion, hein. De toute façon, si on gratte, on peut croire au mérite que si on croit en Dieu. C'est-à-dire qu'il y aurait une intelligence suprême qui accorde les efforts avec les récompenses. Si vous croyez dans un Dieu, très bien, vous pouvez. Si vous croyez pas en Dieu, il n'y a aucune raison de croire que vos efforts seront récompensés.
Les vôtres ont été récompensés, en tout cas. Vous avez passé, je crois, 3 fois l'examen pour l'agrégation de philosophie, c'est ça?
Oui, mais alors je l'ai passé 3 fois, voilà. Alors, en fait, dès la première année où j'avais passé mes concours, j'avais des signes que je pourrais l'atteindre l'objectif. Donc, c'est pour ça que, pour le coup, j'ai persévéré. Mais je pense que si j'avais senti que j'étais pas fait pour ça... La sagesse, c'est de pas s'obstiner quand même. C'est quoi cette phrase de dire que entre celui qui rate et celui qui réussit, la différence, c'est la persévérance. C'est soit la marche est trop haute, soit c'est pas le bon escalier. C'est la première phrase philosophique de l'histoire du monde. Attention, hein. Les 7 sages se sont réunis au temple de Delphes pour graver les premières phrases de sagesse, dont la première, connais-toi toi-même. Je pense que c'est plus sage de d'abord essayer de se connaître. Pourquoi je suis fait? Qu'est-ce que je fais là? Quel est mon rôle? Je suis fait pourquoi? Voilà, hein. Même sans croire forcément au destin, mais bon, tout le monde sent qu'il a plus ou moins des aptitudes, des vocations, des goûts pour ceci, cela, et en voulant foncer contre un mur qui est pas du tout le nôtre, on va se faire mal.
Bon, alors à quelle conclusion est-ce que vous en êtes arrivé avec cet ouvrage? C'est quoi réussir sa vie? Est-ce qu'on a raté sa vie si on n'a pas réussi à 30 ans?
Ah non, 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 non. Comme dit Aristote, on peut savoir si on a raté ou réussi sa vie quand on est mort.
Et certains réussissent, certains ou certaines réussissent post-mortem, du coup.
Dans ce livre, je parle de Van Gogh, hein, évidemment. Donc même quand on est mort, on ne sait pas si on n'a pas réussi quelque chose. Mais sans aller jusqu'à une gloire post-mortem... Déjà, est-ce que réussir sa vie, c'est forcément avoir la gloire? C'est pas forcément ça le modèle de réussite de tout le monde. Mais regardez, Stéphane Hessel, hein, bon, qui avait été résistant, etc., il a quand même explosé aux yeux du grand public il y a 93 ans, quoi, hein, avec Indignez-vous, voilà, donc il y a pas. Kant, grand philosophe, il y a des philosophes qui écrivent très jeune, hein, La Boétie, la servitude volontaire, il l'a écrit à 16 ans. Hume, philosophe anglais, il a, pareil, il a écrit à 18 ans, il a publié à 26, mais Kant, son premier livre, Critique de la raison pure, c'est, il l'a publié à 60 ans, quasiment, hein, il est né en 1724, pendant les Lumières, donc, et puis son premier livre, c'est 1880. La carrière philosophique de Kant, c'est 1780-1800, voilà. Donc entre 60 et 80 ans, voilà. Donc s'il était mort avant, on n'en aurait jamais entendu parler, donc...
En même temps, il faut toute une vie pour écrire la Critique de la raison pure.
Ouais, on se rassure en se disant, ah bah Harrison Ford, il a explosé 45 ans, Louis de Funès 45, etc., etc. Et puis voilà, puis de toute façon, le but de la vie, c'est pas forcément de réussir dans ce sens-là. Mais par ailleurs, moi je dirais pas que ce qui compte, c'est le bonheur. Hein, voilà. Schopenhauer disait ça. Hein, il dit, la grande erreur, c'est de croire que nous vivons pour être heureux. Ça veut pas dire être malheureux, mais je suis pas sûr que... ce soit la clé non plus. Si je dis c'est pas la réussite qui compte, tout de suite on imagine que c'est un peu la phrase type développement personnel, ben non, ce qui compte c'est d'être heureux. Ben non, moi je pense pas non plus que ce qui compte c'est d'être heureux.
Qu'est-ce qui compte alors?
Se réaliser, quelque chose comme ça, comme je le disais, se réaliser. Alors c'est, je crois que c'est Breton qui disait ça, André Breton. Trouver cette différenciation. Voilà, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Qu'est-ce qui me distingue des autres? Des proches disaient, exister, c'est se distinguer des autres. Alors, pas se distinguer à tout prix, mais se dire, après tout, je suis là, pourquoi moi plutôt qu'un autre? Plotin, philosophe platonicien, disait, ne cesse de sculpter ta propre statue. Je parlais, j'évoquais Van Gogh, qui est quand même, comme je le dis dans le livre sur le mérite, il a tout raté. Il coche aucune case d'une vie réussie. Enfin, voilà, il était malade, mental, physique, il a raté tout. Il a, comme vous savez, il a vendu qu'un tableau, Les Raisins Rouges, 400 francs. Il s'est suicidé, il a même raté son suicide puisqu'il est mort que deux jours après. Et pourtant, il a créé une œuvre. Donc, c'est par exemple, c'est le genre de vie, on se dit que c'est pas, il a pas vécu pour lui, mais pour l'œuvre qu'il a laissée un peu à la postérité. Alors, il y en a qu'on voudrait pas, hein, de la place de Van Gogh, mais voilà, donc, lui, il a ni réussi, ni été heureux, et pourtant, c'est quand même une vie qu'il a eue. Enfin, c'est une œuvre. C'est pas une vie, oui, voilà. Il y a des gens qui ont des vies, qui vivent des vies. Lui, il a créé une œuvre. Il a pas une. Kant, c'est pareil, hein, il est jamais sorti de chez lui. 80 ans, il est né, il est mort à Königsberg, dans Prusse orientale, c'est-à-dire en Russie, hein, voilà. Il a jamais bougé. Et il a laissé une œuvre, la Critique de la raison pure, mais c'est pas une vie qu'il a eue.
Il se levait tous les jours à la même heure.
Voilà. Alors, surtout à la fin de sa vie, enfin, c'est le cliché, mais voilà, effectivement. Est-ce que c'est une vie? C'est pas vraiment une vie. Donc voilà, il y a des gens, ils vont plutôt créer des œuvres, voilà. Et puis d'autres qui vont faire des vies, qui seront heureux, qui ont réalisé un petit quelque chose, qui seront, voilà, chacun cherche un sens à sa vie. C'est pas forcément trouver un sens à sa vie non plus d'ailleurs, qui est, voilà, ça. Joseph Campbell le dit. Joseph Campbell, c'est le prof de mythologie qui a inspiré George Lucas pour Star Wars, qui dit que peut-être que ce qui nous importe, c'est pas forcément, par exemple, de chercher un sens à sa vie. Parce que ça aussi, c'est un cliché de philo, hein. Mais c'est de vivre des expériences. La question derrière, c'est pas qu'est-ce qu'une vie réussie, c'est qu'est-ce qu'une vie, en fait. Tout simplement, qu'est-ce qu'une vie? À quelles conditions, dans quel sens, dans quelle mesure je peux dire que j'ai vécu ma vie, quoi. Je pense que c'est ça, peut-être plus. Avoir vécu sa vie, qu'est-ce que ça veut dire?
Choses qui sortent, c'est la maïeutique, la maïeutique qui fonctionne.
L'auto-maïeutique, je m'accouche tout seul.
Alors justement, en parlant de maïeutique, on va remonter avant Kant. Vous en parliez tout à l'heure, la philosophie stoïcienne, Épictète en tête, si j'ose dire. Épictète fait la distinction entre les choses qui dépendent de nous, donc notre vie spirituelle, nos pensées, nos jugements, nos désirs, notre volonté, etc. C'est-à-dire ce sur quoi on peut agir, et les choses qui ne dépendent pas de nous, notre beauté, notre santé, notre place dans la société, notre destinée même.
Tout en fait, hein.
Voilà, c'est ça, ce qui dépend des circonstances extérieures, en quelque sorte. Alors selon vous, est-ce qu'il faut revenir à cette philosophie antique pour traverser la vie ?
Oui, sûrement. Oui, parce que j'ai l'impression que l'idée, c'est la satisfaction du devoir accompli ou d'avoir fait ce qu'on avait à faire sans avoir le sentiment de porter le poids de l'humanité sur soi. Il y a une élection, je vais voter, voilà. Mais c'est à l'inverse, pas se dire, ah bah, comme de toute façon, ce que je vais faire. Ça évite les deux extrêmes. Le premier extrême qui consiste à dire oh bah si c'était pas moi, c'était un autre. À quoi bon les voter? Après tout, c'est une voix sur 70 millions. Effectivement, à quoi bon trier les déchets? C'est pas ça qui va sauver la planète. Ah, ma gamine de 4 ans chante ça. Hein. On n'est pas des magiciens, mais si chacun y met du sien. Ça, c'est le côté désespérant. C'est-à-dire, il y a tellement de choses qui dépendent pas de moi, c'est même pas la peine de commencer. Voilà. Ce qui est une bonne excuse pour rien faire ou pour avoir fait des choses mal. Papon se défendait comme ça. Si ça avait pas été moi, ça aurait été un autre. Mais je crois me souvenir que Jean Moulin était aussi préfet et que lui, il a dit, je préfère que ce soit un autre, ça sera pas moi. Voilà. Donc Moulin, lui, a démissionné de son rôle de préfet puis il est devenu résistant. Donc c'est faire ce que je voudrais que tout le monde fasse à ma place, même si je sais que les conséquences seront pas les miennes. Et puis à l'autre extrême, c'est de croire que tout dépend de moi. Et de dire, moi, si on veut, on peut, et que si toi t'as raté, c'est parce que tu voulais pas, parce que moi je me suis fait tout seul, voilà. Donc, c'est entre les deux, ça permet, à mon avis, d'être plus sage, plus solidaire, plus bienveillant envers les autres, plus heureux aussi, plus serein, voilà, même si moi je le suis pas, hein, je vends de la sérénité, j'ai pas un gramme sur moi, hein, comme disait Coluche, mais voilà, mais effectivement, c'est une phrase qui, à mon avis, permet de, c'est un genre de phrase de clé de la sagesse, voilà. Se dire toujours, quand on a une contrariété, que ce soit morale, psychologique, politique, il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui évite à la fois de ne rien faire et à la fois de s'en vouloir pour les conséquences éventuelles. Je peux m'en vouloir de ce que j'ai fait ou pas, mais voilà, mais par exemple, je le disais tout à l'heure, hein, mais quand on fait ce qu'on avait à faire et puis qu'après on n'obtient pas le succès qu'on voulait, on se dit il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres qui n'en dépendent pas. Quand je faisais la promotion de ce livre sur le mérite, ah mais qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants? Moi je leur apprends quand on veut pas, on peut pas. Voilà, donc c'est-à-dire fais des efforts, fais un travail. Mais je leur apprends aussi que ce qui compte c'est d'avoir fait ce qu'elles avaient à faire et que je les gronderai jamais parce que elles ont un mauvais résultat. Mais parce qu'elles y mettent de la mauvaise volonté.
Les ados, les enfants pourraient répondre à leurs parents comme les stoïciens, tout ce qui doit se passer se passera finalement. D'ailleurs, on pourrait croire à une forme de fatalisme. Quelle est la place de la volonté et de la liberté, surtout dans la philosophie stoïcienne?
Eh bien, il y en a pas beaucoup en fait. Hein. Pour être tout à fait honnête, je crois pas beaucoup au libre arbitre. J'y crois pas beaucoup et je pense que même les gens, par exemple, courageux, persévérants, c'est dans leur nature. C'est assez difficile de prouver la liberté d'un point de vue métaphysique en fait. Hein. Alors c'est une belle idée, mais voilà. Moi, après, ma conviction, c'est que j'ai commencé là-dessus, hein, sur mes 20 secondes de courage. Mais je me demande dans quelle mesure ces 20 secondes de courage, à ce moment-là, c'était pas plus fort que moi en fait. On peut pas savoir si en fait on aurait pu faire autre chose que ce qu'on a fait à ce moment-là.
Là, c'est peut-être la force intérieure, comme vous disiez tout à l'heure, quelque chose qui est plus fort que soi aussi, quelque chose qui nous transcende.
C'est ce que Jung appelle le dieu. Hein, non, l'idée, le souffle, l'enthousiasme. Ouais, le souffle divin.
Bon, en tout cas, pour finir sur les stoïciens, donc je crois comprendre que celui ou celle qui réussit finalement, c'est peut-être celui qui reste tranquille, stoïque, par rapport aux vicissitudes de l'existence.
Oui, voilà, qui peut tout réussir du coup, qui peut rien rater. C'est celui qui sera toujours heureux. Aristote le dit un petit peu aussi. C'est ça le secret de la sagesse antique, hein, c'est-à-dire devenir complètement indifférent aux vicissitudes et rester sage et heureux quelles que soient les circonstances. C'est ça la réussite pour un... Voilà, donc c'est ne plus faire dépendre sa réussite, son bonheur de circonstances extérieures. Voilà, c'est ça... l'idéal antique.
Dire que le sage réussit toujours car il n'est jamais atteint par les échecs,
voilà,
en fait.
C'est ça, le secret de la réussite.
Comme vous le savez, les déviations, ce média Les Déviations raconte l'histoire de celles et ceux qui ont décidé de changer de vie. Vous pensez que redéfinir sa vie, c'est aller jusqu'à redéfinir son identité?
Ça peut, mais je sais pas si c'est redéfinir ou est-ce que c'est redéfinir son identité ou plutôt retourner à l'origine, c'est-à-dire est-ce qu'elle aurait dû être... dès le début, c'est peut-être, on parlait de destin, peut-être se rendre compte qu'on Quand on dit à quelqu'un, t'as raté ta vocation. Ça vient du latin aussi, ça veut dire être appelé par Dieu quand même au départ. Donc finalement, c'est pas très éloigné du destin. Et donc, si changer son identité... Alors évidemment, quand vous parlez d'identité, je pense tout de suite à l'identité sexuelle. Moi, voilà, c'est-à-dire que quand on est né fille dans un corps de garçon ou l'inverse, on a quand même le sentiment que en se changeant, on devient plus soi-même. Si à un moment, on a besoin de changer, c'est... Est-ce qu'on devient quelqu'un d'autre ou est-ce qu'au contraire on se rapproche plus de soi-même, voilà, de son identité justement. Hein. Après, on pourrait considérer à l'inverse. Moi, c'est aussi ce que je pense, que on n'a qu'une vie, alors vaut mieux faire en sorte d'en avoir plusieurs, quoi. Mais je sais pas si c'est changer son identité, parce que changer de vie, son identité, tout ça, c'est dans la mesure où on définit sa vie et son identité par son activité professionnelle en particulier. Et effectivement, j'en parle un peu dans le dernier livre sur l'ennui, où je parle beaucoup des loisirs et du travail. Mais effectivement, quand on dit à quelqu'un « qu'est-ce que tu deviens ?», en général, on va raconter son métier. Et dans notre société où on se définit, on s'identifie, on est reconnu par son métier, on va se reconnaître là-dedans. Mais finalement, c'est dans la mesure où la société veut nous définir par ce qui n'est rien d'autre finalement que notre fonction dans... ce que John Stuart Mill appelle une société coopérative de production. Est-ce que la fonction que j'ai dans la société, c'est ce que je suis ? Quand on parle du démon de midi, de gens qui changent de vie d'un coup, est-ce que c'est pas ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire se rendre compte que la personnalité qu'on s'était construite avec le métier qui va avec était plus ce qu'on appelle le moi social, en répondant aux normes déjà que nos parents nous avaient transmises et puis que la société en général reconnaît, et puis qu'à un moment, quand on devient un peu mature, un peu plus adulte, ce qui prend du temps et ce qui peut arriver à 50, 60 ans, se dire bah finalement c'est pas moi tout ça. C'est pour ça qu'effectivement je dirais bien qu'on ne change pas d'identité, on la trouve un peu plus. Changer de vie, c'est plutôt trouver son identité qui était peut-être là dès le départ. Je parlais d'identité sexuelle pour ce qui est du genre, mais ça peut être aussi l'orientation sexuelle, par exemple, hein, où des gens vont être, j'en connais quelques-uns comme ça, hein, mariés, deux enfants, et puis à 40 ans, se rend compte que c'était pas du tout, en fait, ça le truc, quoi, voilà. Mais je pense que changer de vie, c'est pas changer d'identité, c'est plutôt la trouver, celle qui dormait là depuis longtemps et que... La société a un peu... Bergson, il parle d'une croûte. Hein. Quand il parle du moi social, il dit que c'est une croûte qui se fait au-dessus du moi profond, que du coup, j'ai du mal au sens de la croûte terrestre ou le truc là. Même ça peut être une croûte d'une blessure, hein, un truc qui fait que ça cache ce que je suis au fond. Voilà.
En même temps, c'est difficile de connaître son identité fondamentale hors de ses manifestations extérieures, quelque part.
Oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, voilà, je suis pas un ayatollah du vrai moi qui serait différent des autres, Robinson Crusoe, Into the Wild, avec mes élèves je leur ai montré Into the Wild, hein, où il pense qu'il pourrait aller se trouver plus vraiment lui-même en Alaska à côté d'un cerf. Je vois pas en quoi je serais plus moi là-bas, mais en même temps il y a quand même une part d'automatisme, de stéréotype de ce que je devrais devenir, quoi, hein, qui m'a empêché quand même de... Il y a un truc entre les deux, quoi. Bergson lui-même a évolué sa pensée, hein, dans ses premiers livres, à sa thèse, là. Il est beaucoup sur, oui, il y a le moi profond qui est complètement différent du moi social. Puis en fait, au fur et à mesure, dans des livres plus tardifs, il va vous dire, mais quand même, ce qui fait partie de moi, c'est aussi la société dans laquelle je suis, avec la langue qu'elle m'a donnée, avec les valeurs qu'elle m'a transmises, etc. Faut pas se perdre en route, quoi. Faut s'en servir comme d'un moyen et pas d'un obstacle pour se trouver aussi. C'est vrai que si j'étais pas dans une société, je serais où ? Hein, je serais dans un arbre en train de je sais pas moi.
Into the wild.
Voilà, se dire que peut-être que mon idéal de vie, ce qui me ressemble, est pas forcément correspondant au modèle que on a voulu me donner, quoi.
Alors, on retrouve un certain sens, disons, de la malice, pour ne pas dire cynisme. C'est un peu votre marque de fabrique dans le dernier livre que vous avez publié aux éditions Flammarion, qui s'intitule « Comment échapper à l'ennui du dimanche après-midi ». Vous évoquez notamment l'ennui ressenti parfois pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez nous lire ce passage, s'il vous plaît ? Page 23.
Voilà. Alors, page 23. Alors, en fait de confinement et d'emprisonnement... Peut-être la situation nous a-t-elle rendus plus libres en nous forçant à reprendre un peu l'initiative sur nos propres vies. Peut-être. Dans un fameux passage de ses cahiers pour une morale, Sartre décrit ainsi en quoi consiste la liberté. « Me voilà tuberculeux, par exemple. Cette maladie qui m'infecte, m'affaiblit, me change, limite brusquement mes possibilités et mes horizons. J'ai été acteur ou sportif, je ne puis plus l'être. Tuberculeux ou malade du coronavirus, et sinon confiné, en tout cas, il semble que je sois diminué, ou du moins que mes possibilités soient restreintes, parce que je ne peux pas sortir, travailler, etc. Mais en réalité, les choix ne sont pas plus limités qu'avant, ils sont différents. Et je suis d'autant plus libre que je ne peux plus me laisser porter par le courant, le temps et la société comme j'en avais l'habitude. Je suis plutôt contraint de choisir, puisque mes occupations ne me sont plus servies. Dans cet ennui du dimanche, j'évoque ainsi, dans cet ennui du dimanche, je veux dire dans le livre, j'évoque souvent Albert Camus qui a lui-même été diagnostiqué tuberculeux à 17 ans, alors qu'il hésitait encore entre footballeur professionnel et agrégé de philosophie. Résultat, il n'a fait ni l'un ni l'autre. Contraint par la force des choses à écrire des livres, quelle horreur, il est devenu le plus jeune prix Nobel de littérature. A-t-il raté sa vie, pour reprendre un thème dont on a déjà parlé.
Est-ce que vous avez un autre exemple, vous citez Albert Camus, un autre exemple dans votre pop philosophie d'une personne notoire qui a changé de vie, par exemple?
Oh, il y en aurait pas mal. J'avais appris quand j'étais en prépa qu'un des maîtres stoïciens, justement, s'appelait Cléante et qu'il était lutteur à l'origine, ou boxeur, hein, voilà. Et donc, c'est devenu un des maîtres du stoïcisme moyen, qui est un peu moins connu, Cléante et Chrysippe, voilà. Donc, il y avait un boxeur qui est devenu philosophe. Je pense à Rimbaud tout de suite, je suis toujours épaté, en fait. C'est pas Rimbaud d'apprendre que, en fait, tout ce qu'il a écrit, il l'a écrit entre 16 et 20 ans, quoi. Je crois qu'il est mort vers 45 ans. Oui, il n'est pas mort si jeune que ça. Hein. Mais sa deuxième vie, en fait, n'a aucun rapport avec ce qu'il avait. Il est parti donc marchand d'armes, je sais pas où.
Une vie de voyage.
Voilà, une vie qui ressemble à rien de voilà. On peut penser à Brel aussi. C'est marrant, hein, Brel qui décide du jour au lendemain d'arrêter de chanter. Il a vraiment arrêté de chanter. Il a fait un peu de films. Et puis quand il a appris qu'il était malade, il est parti au Marquis. Brel, c'est pas mal. C'est vraiment le gars, quand il décide de changer de vie, parce qu'il y en a tellement qu'on fait leur dernière tournée d'adieu, hein, Aznavour pour pas le nommer. et finalement, on arrive jamais à décrocher. C'est quand même quelque chose de dire j'arrête, je change de vie, mais vraiment quoi. Et d'avoir ni nostalgie, ni rien. Dans Gladiator, il dit les hommes devraient savoir quand ils sont vaincus. Mais des philosophes, par contre, qui changent de vie, ça, ça se fait plutôt dans l'autre sens, en fait, la philosophie. C'est plutôt des gens qui avaient une autre vie et qui sont devenus philosophes, mais quelqu'un qui serait philosophe. Il y en a un qui a essayé de le faire, Hume, hein, David Hume.
Philosophe anglais.
Philosophe anglais, écossais même. Comme je vous disais tout à l'heure, j'en parlais, il a écrit assez jeune un traité de la nature humaine. Et puis, il a fait ce qu'il appelle une crise de mélancolie, donc ce qu'on appelle une dépression nerveuse aujourd'hui. Et il plaidait pour un genre de vie mixte, en disant, faut pas être que philosophe. Donc il est parti, il s'est dit, c'est pas pour moi. Et il a été travailler pour un marchand à Bristol, sur les quais, enfin voilà, faire un peu du manuel, quoi. Et puis en fait, au bout de 2 ans, il a arrêté, il est retourné philosophe, quoi. Il a bien fait, parce que ce qu'il a écrit était quand même pas complètement idiot.
Justement, je reviens sur cette phrase que vous disiez tout à l'heure. Peut-être la situation nous a-t-elle rendu plus libres en nous forçant à reprendre un peu l'initiative sur nos propres vies, donc en parlant du confinement. C'est-à-dire que la contrainte permettrait paradoxalement de sortir d'une certaine zone de confort. Donc l'ennui serait, selon vous, un bon terreau pour faire naître le changement, par exemple ?
Ah oui, exactement. Je le prends comme le moment de respiration, en fait, dans la semaine, où, qui est rituellement arrive pour se faire un peu le point sur sa vie, voilà. Et effectivement, comme vous le dites très justement, le lieu du changement, c'est-à-dire si je me sens, si j'ai ce petit coup de cafard, de spleen, de blues, on l'appelle comme on veut, hein. Il y a 2 solutions face aux situations où on s'ennuie, où on a ce cafard du dimanche après-midi. Soit c'est de le repousser d'un revers de la main, en essayant de s'occuper le cerveau, plus que l'esprit d'ailleurs. On essaye de, de chercher du divertissement, de penser à autre chose pour ne pas s'ennuyer. Soit on essaye d'incuber un peu, hein, de se mettre en jachère en se disant bah, si j'ai ce spleen, c'est peut-être que ma vie comme elle va tout le reste du temps me convient pas tout à fait. Et c'est effectivement le moment de se dire pourquoi pas changer quelque chose. Le problème finalement, c'est pas ce moment-là où je m'ennuie du dimanche, puisque là c'est le moment où je fais le point. C'est peut-être tout le reste de la semaine où je préfère pas me poser de questions. Donc c'est évidemment que l'ennui, c'est le moment de remise en question et donc de changement si on essaye de s'en emparer un peu. Après, comme on dit, l'ennui, ça peut être chiant, hein. Je vous en parlais off the record encore une fois, mais quand on voit des magazines féminins en particulier, j'ai vu ça souvent parce que j'ai travaillé sur, pour mon livre, j'avais travaillé sur un de ces magazines, comment se dégager du temps pour soi, avoir du temps pour soi, nous courons après le temps, on n'a jamais le temps de rien faire. Alors il y a plein de règles pour comment bien gérer son temps pour avoir du temps pour soi, et puis une fois qu'on a du temps pour soi, une fois qu'on a une heure ou deux à tuer, on ne sait pas quoi en faire. Et là on s'ennuie. Et on culpabilise parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas choisi de naître. Hein. On se retrouve dans la villa, il faudrait qu'on s'occupe pendant 2 heures. Je peux faire tout ce que je veux et je sais pas ce que je veux en fait. Et je fais rien et je m'ennuie à cause de moi. Et là, on commence à rentrer dans des problèmes philosophiques, métaphysiques assez profonds là. Parce qu'on commence à se dire, je suis là pour rien. Ma vie n'a... Je sais pas ce que je fais là, voilà, puisque le temps qui m'est imparti, qui est pas long, je sais même pas quoi en faire. Voilà, hein, je suis en train de griller mes cartouches là, hein, parce que j'ai 2 heures là, qu'est-ce que j'en aurais fait? Rien, enfin voilà. Et là, on commence à rentrer dans des questions existentielles, on dirait plutôt assez profondes.
Bon, en tout cas, vous dites à plusieurs reprises, non sans humour, que la problématique de l'ennui est la seule problématique philosophique vraiment sérieuse.
Puisque ça consiste à se demander ce qu'on fait là, à se... S'ennuyer, ça veut dire se demander qu'est-ce que je fais là maintenant, et donc qu'est-ce que je fais là en général, et se poser la question du sens de l'existence.
Alors Gilles Verviche, notre entretien touche à sa fin. Peut-être 3 de vos envies de changement ou vos bonnes résolutions, je sais pas, pour 2021.
De changement ou de résolution, bah faudrait que j'arrête de fumer. Paradoxalement, être moins sur moi et en même temps moins sur le regard des autres, parce que c'est lié en fait. On est finalement attentif au regard des autres parce qu'on est trop attentif à son ego. Devenir plus sage, quoi. Gagner en sérénité, ouais.
Alors, c'est le mot de la fin. Être plus sage. Merci beaucoup, Gilles Verviche.
Merci,
et
à vous.
Merci pour cet échange. Et je vous souhaite bonne fortune, alors, ou bonne réussite, je sais pas, pour cette année 2021, je sais pas.
Ah non, surtout pas. oui, voilà, un peu d'atteindre des buts que je me fixe. Si c'est une manière de finir la réussite, oui, c'est pas mal, ça. Atteindre les buts qu'on se fixe. Ou en découvrir d'autres auxquels on n'avait même pas pensé.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
C'était un entretien mené et réalisé par Émilie Drujon pour Les Déviations. Cet instant philosophie vous a plu ? Alors commentez, partagez, taguez vos amis et réagissez pour nous le faire savoir. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas, Les Déviations n'ont qu'une vocation : raconter l'histoire de gens qui ont changé de vie.